si, dans le cas d'une défense personnelle, le gouvernement actuel a pu tuer et proscrire en juillet 1830, le peut-il en octobre 1831 qu'il n'ait pas attaqué et que son mandat politique ne lui a été continué ni par la souveraineté de la gloire, ni par celle du peuple, ni par celle du temps. Proposition pour le bannissement de Charles X et de sa famille. Toute autorité se doit défendre. On ne peut exiger d'elle qu'elle se laisse renverser quand elle a la force en main. Veiller à sa propre sûreté est naturelle. Frapper du glaive celui qui nous en veut frapper est chose légitime. Mais exceptez ce cas d'attaque. Une autorité de fait ne peut agir que dans la sphère d'un fait. Elle n'a pas le droit de porter des lois politiques parce que ce droit ne s'acquiert que par la légalité politique. Or, cette légalité manque au gouvernement actuel. D'après le principe de la souveraineté du peuple, qu'il a invoqué lui-même pour s'établir. Donc, il ne peut proscrire les Bourbons. Parcourons les exemples que l'on suppose analogues et dont on cherche à s'appuyer. Les Anglais, en 1688, prétendirent rester fidèles à la loi de l'hérédité. La Convention du 23 février 1689 déclara que Jacques II du nom, en quittant l'Angleterre avec son fils, avait abdiqué, que le trône était vacant et que Marie, fille de Jacques, princesse d'Orange, était de droit héritière du trône délaissé. Guillaume III fut associé à sa femme. L'usurpation s'établit sur une fiction de légitimité. Si le fils de Jacques eût été protestant et remis à la puissance parlementaire, les Anglais ne l'auraient pas exclu du trône. Jamais il ne leur serait venu en pensée de punir un enfant innocent des fautes de son père. En voici la preuve. Cet enfant fut exclu, non pour un soupçon de défaut de naissance légitime, supposition dont les deux chambres n'arguèrent pas et qu'elles abandonnèrent, mais parce qu'il avait été transporté en France pour y être élevé par les ennemis de la religion d'Angleterre. Note Rapin de Toiras avec les notes de Tyndale et les pièces des actes de Rymer. Tome 11, page 42, édition de la Haye, in quattro. Marie régna donc comme héritière directe de Jacques. Après elle, Anne, sa sœur, monta sur le trône. Après Anne, vint Georges Ier, petit-fils par sa mère de Frédéric V, électeur palatin, et d'Élisabeth, fille du roi Jacques Ier d'Angleterre. Les tentatives des Stuarts pour recouvrer la couronne commencèrent sous Jacques II lui-même, qui perdit le 11 juillet 1690 la bataille de la Boyne contre Guillaume III. Après sa mort, arrivé à Saint-Germain-en-Laye le 16 septembre 1701, son fils dit Jacques III, ou le chevalier de Saint-Georges, tenta une descente en Écosse au mois de mars 1708. Et revint en France sans succès le 7 avril de la même année. Un parti s'éleva pour lui en 1715 sous Georges Ier, dans le nord de l'Angleterre. Il passa en Écosse en 1716 et ne fut pas plus heureux que la première fois. L'Espagne, en 1719, le voulut remettre sur le trône. La flotte castillane fut dispersée. Deux frégates seulement débarquèrent 300 soldats qui s'accrurent de 4700 Écossais et qui s'enfuirent à l'approche des Anglais. Jacques III épousa en 1719 à Montefiascone Marie-Clémentine, fille de Jacques Sobieski et petite-fille de Jean Sobieski. Charles-Édouard, fils aîné de Jacques III, s'embarqua à Nantes le 12 juin 1745. Prit terre sur la fin d'août au nord de l'Écosse, avec 7 officiers seulement. Il eut cette fameuse et brillante aventure d'armes qui pensa lui rendre la couronne et qui termina le 27 avril 1746 à Culloden, la vie royale des Stuarts. Après avoir erré dans les montagnes, les marais et les îles, Édouard parvint à sortir de l'Écosse le 17 septembre 1746, sur un vaisseau malouin, ne ramenant avec lui que deux compagnons, Sullivan et Sheridan. La France, durant son entreprise, menaçait les côtes de l'Angleterre avec une flotte et des troupes de débarquement. Ainsi, pendant 56 années, à compter de la bataille de la Boyne à celle de Culloden, les Stuarts ne cessèrent de troubler la Grande-Bretagne. Ils vinrent pendant les quatre règnes de Marie, d'Anne, de Georges Ier et de Georges II, redemander à un peuple qui ne les connaissait plus, un pouvoir contre lequel la prospérité publique et le temps avaient prescrit. La nouvelle nation anglaise et la maison d'Hanovre se défendirent et triomphèrent. En 1708, la tête du prétendant Jacques III fut mise à prix. En 1745, une récompense de 30 000 livres sterling fut promise à quiconque livrerait mort ou vif le prince Charles-Édouard, fils du prétendant. Des échafauds s'élevèrent pour les Irlandais, Écossais et Anglais qui avaient appelé les Stuarts dans les trois royaumes ou qui avaient été pris les armes à la main. Mais ces proscriptions n'avaient point eu lieu avant l'attaque. Elles n'en étaient que la défense et la suite. Rien de tout cela ne ressemble à ce que nous voyons aujourd'hui. Charles X et le dauphin, son fils, n'ont point été déclarés abdicants par une assemblée ennemie. Ils ont bien et dûment abdiqué de leur propre gré. Ils ne réclament point la couronne. Ils l'ont déposée par droit héréditaire sur la tête de leurs petits-fils et neveux. Par cet acte, ils se sont mis l'un et l'autre hors de la question. On ne pourrait pas même les proscrire comme revendiquant le trône, puisqu'ils ne le revendiquent pas. Il ne s'agit donc absolument que de l'enfant. Celui-ci est un orphelin âgé de 11 ans, qui ne peut être accusé d'aucun délit, et on le bannit. On livre la couronne à son plus proche héritier, comme en Angleterre on la fit passer de Jacques à Marie. Mais on ne prétend pas la transmettre en vertu d'un droit de succession. On veut que la légitimité soit brisée. Le duc de Bordeaux a-t-il reparu avec ses parents sur le sol dont il a été banni? S'est-il montré quelque part aux Français dans les bras de sa mère? Non, il languit, exilé sur la terre où le prétendant débarqua. Il n'a rien attaqué et on le proscrit. A-t-on laissé s'écouler 55 ans, passer 3 ou 4 générations de rois pour lui déclarer cette guerre, laquelle il n'a pas provoquée? Non, il est déchu depuis 14 mois. Il n'est encore monté que sur le vaisseau qu'il a enlevé à sa patrie, et sa main trop faible ne pourrait même pas s'armer d'une épée pour parer les coups que vous lui portez. Quand le prince Édouard rassembla les montagnards de l'Écosse en 1745, un prince allemand, presque étranger à la maison des Stuarts, était sur le trône. C'était Georges II, descendant en ligne féminine collatérale d'Élisabeth, fille de Jacques Ier, trisaïeul du prétendant, ce qui remontait à 142 ans. Louis-Philippe est roi. Il porte le sceptre de l'enfant dont il était l'héritier immédiat. De ce pupille que Charles X avait remis entre les mains du lieutenant général du royaume, comme un tuteur expérimenté, un dépositaire fidèle, un protecteur généreux. Ne pouvez-vous attendre quelques années? Quoi, si Henri V abordait les champs qui ont déjà dévoré son père? Louis-Philippe serait obligé de le faire fusiller? Ne pouviez-vous ménager davantage les souvenirs et le cœur de votre prince? Lorsque le 7 août 1830, la Chambre des députés offrit la couronne au duc d'Orléans, celui-ci répondit « Je reçois avec une vive émotion la déclaration que vous me présentez. Je la regarde comme l'expression de la volonté nationale. Rempli des souvenirs qui m'avaient toujours fait désirer de n'être jamais destiné à monter sur le trône. Exempt d'ambition et habitué à la vie paisible que je menais dans ma famille, je ne puis vous cacher tous les sentiments qui agitent mon cœur dans cette grande conjoncture. Mais il en est un qui les domine tous, c'est l'amour de mon pays. Je sens ce qu'il me prescrit de faire, et je le ferai. Et vous arrachez Louis-Philippe à ses foyers domestiques, à lui si chers, pour lesquels il exprimait des regrets si touchants. Et vous l'obligez de se renfermer dans le château de nos anciens rois. Cette maison de passage, où la gloire même n'a pu rester, ressemble à ces ruines où les voyageurs viennent tour à tour chercher un mauvais abri. Henri III y prit un cheval pour fuir après la journée des premières barricades. Louis XVI en sortit pour aller au temple. La Convention en fut chassée. Napoléon en partit pour Sainte-Hélène. Sur cette terrasse despotiquement ravie au public, sur cette terrasse que l'on réserve, dit-on, au plaisir d'une jeune famille, jadis fut pratiqué un petit enclos où tout Paris, peu de jours avant le 10 août, a vu jouer des enfants de douleur, Marie-Thérèse, depuis la Dauphine, et son frère, depuis Louis XVII. Les dernières barricades ont chassé Charles X des Tuileries. Eh bien, dans ce château funeste, au lieu d'une couche innocente sans insomnie, sans remords, sans apparition, qu'a trouvé votre prince? Un trône vide que lui présente un spectre décapité, portant dans sa main sanglante la tête d'un autre spectre. Et c'est de ce trône où il s'est assis pour vous complaire que vous forceriez le roi de votre prédilection d'ordonner le meurtre de l'enfant dont il occupe la place. Il serait temps d'en finir avec les lois de proscription. Elles n'empêchent rien de ce qui doit arriver. Et elles ont un caractère de fureur qui n'est plus en rapport avec l'humanité du siècle. Henri IV apporta lui seul, au domaine de la couronne, des biens patrimoniaux de plus de 18 millions de revenus, monnaie d'aujourd'hui. Et ses héritiers manquent des premières nécessités de la vie. Un compagnon fidèle, M. le duc de Blacas, partage avec ses maîtres la fortune de ses enfants. Je ne sache pas que les serviteurs de Buonaparte aient jamais mis leur trésor à la disposition de la famille de ce grand proscrit. On vient nous dire que les Bourbons, qui ne trouveraient pas à emprunter un shilling en Angleterre, qui n'ont plus en France que des lambeaux vendus à l'encan et au rabais, paient avec leur argent les mécontents de l'Ouest et du Midi. Un petit nombre d'honnêtes gens croient à cette absurdité, faute de s'être rendu compte des faits, trompés qu'ils sont par des brocanteurs de conscience. Il est tout simple que ces trafiquants, ayant toujours vendu leur opinion, se figurent qu'on n'en a point si elle n'est payée. Quand ceux-ci auront étendu jusqu'aux carlistes les lois de mort, quand les parodistes de la terreur auront fait revivre l'âge d'or du sang, quand ils auront repris dans les arsenaux des Lebon et des Carrier, les superbes machines des forts génies, quand ils auront fait tomber mon chef, comme jadis tomba celui de mon frère, qu'ils regardent dans ma tête et dans ma poche, ils trouveront l'une pleine de projets, de liberté et de gloire pour ma patrie avec Henri V, l'autre vide. Autrefois, le gouvernement révolutionnaire étendit son bras de peuple sur les Bourbons, mais alors il cherchait un prétexte dans la guerre européenne. Il installa les échafauds. Quand Buonaparte renouvela la proscription de la famille royale, la guerre était recommencée sur la frontière et dans la Vendée. La bataille de Waterloo approchait. A-t-on maintenant un pareil prétexte? En pleine paix, vous vous occupez de mettre hors la loi une famille qui, après tout, vous a rendu prospère pendant 16 années et a commencé pour vous le règne de la liberté. Une famille qui contribua à votre ancienne grandeur, qui se lie à tous vos souvenirs de gloire, qui, tandis que vous lui refusez un arpent de terre dans son immense héritage, vous dote en partant d'une France africaine, dernier présent dont elle paie votre ingratitude. Note. dans le système de lâcheté diplomatique, de concessions ignobles par lesquelles nous semblons vouloir acheter notre existence, je ne serais pas surpris de nous voir évacuer Alger. Nous devons bien cette marque d'obédience à l'Angleterre, pour la protection dont elle nous déshonore. Il ne manquerait plus que cette gloire à la quasi-légitimité. Si les tempêtes, compagne fidèle de celui qui fut votre roi, le poussaient à vos rivages, vous l'immoleriez ? Ajoutez la tête de Charles X à celle de Louis XVI. Jetez cette tête blanchie non à l'Europe, votre alliée, mais aux hommes qui voudraient déshonorer ce qu'il put y avoir de noble dans les journées de juillet. Joignez à ces victimes la prisonnière du Temple. Celle-là porte déjà tant de couronnes que je ne sais s'il y aura place pour la dernière. Qu'on emmanche le fer de Louvel dans une loi pour en frapper la veuve du duc de Berry. Quant au jeune Henri, s'il n'a pas les années requises à l'échafaud, n'êtes-vous pas les maîtres ? Accordez-lui dispense d'âge pour mourir. J'ai montré que l'exemple des Stuarts, dont on prétend s'autoriser pour bannir les Bourbons, ne se peut appliquer ni au duc de Bordeaux, ni à ses parents. Un autre exemple tiré de la famille de Buonaparte est également sans rapport avec la cause de mes augustes clients. La France n'a pas agi seule dans le bannissement des membres de la famille impériale. Elle n'a fait qu'obéir à la dure nécessité imposée par la force des armes. Ce sont les alliés qui ont provoqué ce bannissement. Des conventions diplomatiques, des traités formels prononcent l'exil des Buonaparte, leur prescrivent jusqu'au lieu qu'ils doivent habiter, ne permettent pas à un ministre ou un ambassadeur des cinq puissances de délivrer seul un passeport aux parents de Napoléon. Le visa des quatre autres ministres ou ambassadeurs des quatre autres puissances contractantes est exigé. Tant ce sang de Napoléon épouvantait les alliés, lors même qu'il ne coulait pas dans ses propres veines. Grâce à Dieu, je ne me suis jamais soumise à ces mesures. Avant qu'un ministre de Louis-Philippe allât voir un enfant et une femme, j'avais délivré, sans consulter personne, en dépit des traités et sous ma propre responsabilité comme ministre des Affaires étrangères, un passeport à Madame la Comtesse de Survilliers, alors à Bruxelles, pour venir à Paris soigner un de ses parents malades. 20 fois, j'ai demandé le rappel de ces lois de persécution. 20 fois, j'ai dit à Louis XVIII que je voudrais voir le duc de Reichstadt, capitaine de ses gardes, et la statue de Napoléon replacée au haut de sa colonne. Note. Je disais au mois de mars de cette année, dans la dernière brochure, dont celle-ci est la suite, j'ai rendu, comme ministre et comme ambassadeur, tous les services que j'ai pu à la famille Buonaparte. Elle peut me désavouer, si je ne dis pas la vérité. Il n'a pas tenu à moi qu'elle n'ait été rappelée en France, et que même la statue de Napoléon n'ait été replacée au haut de sa colonne. C'est ainsi que je comprenais largement la monarchie légitime. Il me semblait que la liberté devait regarder la gloire en face. À peine l'écrit où se trouve ce passage avait-il paru, que l'on vit paraître une ordonnance des ministres de Louis-Philippe pour remettre la statue de Napoléon sur sa colonne. Ambassadeur à Rome, j'autorisais mes secrétaires et mes attachés à paraître au palais de Madame la Duchesse de Saint-Leu. Je fis cesser la séparation que je trouvais établie entre des Français qui avaient également connu l'adversité. J'écrivis à Monsieur le cardinal Fesch à sa sortie du conclave pour l'inviter à se joindre aux cardinaux qui devaient se réunir chez moi. Je lui témoignai ma douleur des mesures politiques qu'on avait cru devoir prendre. Je lui rappelai le temps où j'avais fait partie de sa mission auprès du Saint-Siège. Je priai mon ancien ambassadeur d'honorer de sa présence le banquet de son ancien secrétaire d'ambassade. La réponse que je reçus, pleine de dignité, de discrétion et de prévoyance, mérite d'être connue. Du Palais Falconieri, 4 avril 1829. Le cardinal Fesch est bien sensible à l'invitation obligeante de M. de Chateaubriand. Mais sa position à son retour à Rome lui conseilla d'abandonner le monde et de mener une vie tout à fait séparée de toute société étrangère à sa famille. Les circonstances qui se succédèrent lui prouvèrent qu'un tel parti était indispensable à sa tranquillité. Et les douceurs du moment ne le garantissant point des désagréments de l'avenir, il est obligé de ne point changer de manière de vivre. Le cardinal Fesch prie M. de Chateaubriand d'être convaincu que rien n'égale sa reconnaissance et que c'est avec bien de la peine qu'il ne se rendra pas chez son Excellence aussi fréquemment qu'il l'aurait désiré. Le très humble, etc. Signé Cardinal Fesch. Le prince Jérôme me fit l'honneur de réclamer mon intervention dans une occasion particulière, en m'envoyant copie d'une requête qu'il adressait au cardinal secrétaire d'État. Il me disait dans sa lettre « L'exil est assez affreux dans son principe comme dans ses conséquences pour que cette généreuse France qu'il a vue naître, le prince Jérôme, cette France qui possède toutes ses affections et qui l'a servie 20 ans, veuille aggraver sa situation en permettant à chaque gouvernement d'abuser de la délicatesse de sa position. Le prince Jérôme de Montfort, confiant dans la loyauté du gouvernement français et dans le caractère de son noble représentant, n'hésite pas à penser que justice lui soit rendue. Il saisit cette occasion, etc. Signé Jérôme. Rome, 9 mai 1829. J'adressai en conséquence de cette requête une note confidentielle au secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. Elle se terminait par ces mots. Les motifs déduits par le prince Jérôme de Montfort, ayant paru au sous-signé, fondés en droit et en raison, il n'a pu refuser l'intervention de ses bons offices au réclamant, persuadé que le gouvernement français verra toujours avec peine, aggravée par d'ombrageuses mesures, la rigueur des lois politiques. Le sous-signé mettrait un prix tout particulier à obtenir dans cette circonstance le puissant intérêt de son éminence le cardinal secrétaire d'État, signé Chateaubriand. Je répondis en même temps au prince Jérôme ce qui suit. Rome, 9 mai 1829. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège a reçu copie de la note que le prince Jérôme de Montfort lui a fait l'honneur de lui envoyer. Il s'empresse de le remercier de la confiance qu'il a bien voulu lui témoigner. Il se fera un devoir d'appuyer auprès du secrétaire d'État de sa sainteté les justes réclamations de son Altesse. Le vicomte de Chateaubriand, qui a aussi été banni de sa patrie, serait trop heureux de pouvoir adoucir le sort des Français qui se trouvent encore placés sous le coup d'une loi politique. Le frère exilé de Napoléon, s'adressant à un émigré, jadis rayé de la liste des proscrits par Napoléon lui-même, est un de ces jeux de la fortune qui devait avoir pour témoin les ruines de Rome. Le vicomte de Chateaubriand a l'honneur, etc. Signé Chateaubriand. J'ai cru devoir mettre au jour mes rapports avec la famille de Buonaparte, non pour en faire un vain étalage, mais pour fortifier mes arguments en faveur d'une autre famille, en montrant que je les tire autant de mes principes que de mon dévouement. Enfin, si on lance des mandats contre les Bourbons, ces mandats ne peuvent pas être isolés. Il faut de toute nécessité qu'ils atteignent les complices et les adhérents de cette famille. Besoin est de s'occuper d'un nouveau code criminel, à moins qu'on ne trouve, par quelque subtilité de rédaction, le moyen d'envelopper les délits des carlistes dans la catégorie des délits du code existant. On a même une autre ressource, sans se mettre en frais d'imagination. Le bulletin des lois offre l'organisation du tribunal et des lois révolutionnaires. Là se voit comment un royaliste peut pécher en pensée, en paroles et en actions, et ce qui lui arrive pour avoir donné asile, écrit ou rêvé à ceux qui avaient reçu sa foi. De bonnes personnes, qui aiment à se rassurer, prétendent que des lois obligées comme suite de ce qui a été fait ne seront, ou ne seraient, que préventives et comminatoires, que le cas échéant, on ne les exécuterait pas. Des lois de proscription pour rire, c'est à quoi on n'avait point encore songé. Je pense moi-même que de pareilles lois sont repoussées par les mœurs actuelles. Mais qui vous répond qu'à l'heure où un événement surviendrait, il n'y aurait pas un de ces mouvements d'opinion qui contredisent les mœurs? On se félicite aujourd'hui de n'avoir pas tué les ministres de Charles X. L'opinion ne demandait-elle pas leur mort quand on les a jugés, et à quoi leur vie a-t-elle tenu? Qui vous peut assurer que des hommes pacifiques seront toujours à la tête des affaires, qu'ils ne seront pas eux-mêmes devenus suspects, que peut-être ils n'auront pas été bannis? Si des esprits cruels se saisissaient du pouvoir, ils sauraient, dit-on, inventer des mesures à leur taille. Ils remettraient en honneur ces temps où des pétitionnaires offraient de faire une pension à la guillotine pour ses bons services, entretien, réparation et menus coûts. Soit. Mais pourquoi donc alors vous donner la peine de forger des armes à vous inutiles et qu'ils sauront si bien fabriquer? Pourquoi leur épargner le prix de la main-d'œuvre et le temps de la façon? Législateur, sortez de l'ornière sanglante tracée depuis 2000 ans par le char de Sylla, et dans laquelle la tyrannie royale ou populaire a tour à tour roulé ses vengeances. Qu'une torche funèbre, allumée près de votre tribunal, ne vous dérobe pas la vue de la lumière de la civilisation nouvelle. Imprimez à vos décrets le caractère de votre temps. Voulez-vous déjouer les complots, tromper les intrigues, déconcerter les projets? Ouvrez la porte à tous les bannis, Buonaparte et Bourbon. Laissez-les se mêler à la foule, qu'ils passent et repassent devant ce trône qu'ils ont perdu. Quand ils verront d'en bas ce qu'ils ne voyaient que d'en haut, rois tombants ou tombés, il est douteux qu'ils s'empressent de ramasser le sceptre, dût la fortune le jeter à leurs pieds.